cette entrevue-là. C'est vraiment cool de vous voir en pleine forme en plus. Alors, ma première question, c'est comment ça va?
Ça va.
Comment
ça... ça va bien. Non, écoute, c'est un retour pour la politique, mais c'est un retour de la bonne façon. Se prendre en main et puis assurer de pouvoir contribuer à nouveau pour être la solution d'une ville qui en a bien besoin. Puis d'être entouré d'une équipe formidable et une équipe qui grossit de plus en plus. Alors, basée sur la diversité, basée sur la parité, des gens qui ont de l'expérience, qui ont de la compétence, qui vont ramener l'espoir de cette ville. Alors, écoute, tu peux pas être plus heureux, là.
Ah ben oui, ben, mais c'est comment tu sais de faire une campagne électorale en pleine pandémie? C'est une première?
Oui, c'est une première. On a déjà vécu des crises, là, ça va être ma 12e campagne électorale. J'ai quand même 35 à 40 ans de politique dans le corps, mais c'est toujours à renouveler. On prend jamais rien pour acquis. Cette élection-ci va être basée beaucoup sur la confiance. On doit mériter la confiance des gens. On doit aussi assurer d'avoir des choses à dire. On peut pas juste surfer. Là. Les gens ont besoin non seulement d'espoir, mais ils ont besoin d'options. Ils ont des problèmes en matière de sécurité. Il y a la réalité du développement économique, développement social, lutte contre la précarité, tout ça. On a vu le logement hier. Et puis, les gens sont cyniques parce qu'on bien souvent, on leur promet des choses. On fait même pas la moitié. Et puis là, les gens sont encore plus furieux. Et là, ils veulent plus qu'on tombe dans un cycle de chicanes puis de se traiter des noms et tout ça. C'est vraiment de travailler pour toutes les générations, d'avoir des objectifs et des politiques bien senties. Parce que dans le fond, on est là pour les représenter avant tout. Hein. Donc, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ce type de leadership-là où on peut avoir une métropole vibrante et des quartiers qui sont des lieux de destination sécuritaires où il fait bon vivre. Alors, t'as pas à choisir. On peut être les deux.
Exactement. Puis au fil des années de réflexion, si vous êtes réélu à nouveau comme maire, qu'est-ce que vous ferez de différent ou qu'est-ce que vous ferez de différent, mais aussi de pareil? Parce que ça a été quand même, il y a eu des bons coups, là. Fait que, ça serait quoi votre approche? Oui. Oui. Retrouver Montréal. Oui.
OK. Et à l'intérieur de ça, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que quand je parlais de compétences, d'expérience et d'assurance, on a trois approches. À l'époque, quand je suis devenu maire pour la première fois, on avait des problèmes de corruption. Donc, il fallait changer énormément le focus. Écoute, on n'était pas, non seulement on n'était pas crédible, mais le message qu'on recevait le plus souvent au téléphone, c'est « il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Personne ne voulait s'associer à nous, personne ne voulait nous parler. » J'ai amené l'inspecteur général. On a redonné une fierté. On avait une équipe aussi qui a redéfini toute la question des fonds publics, la gestion, saine gestion des fonds publics, infrastructures et tout ça. On a ramené l'autonomie municipale. On n'a pas juste une administration qui relève de la province. On est un gouvernement de proximité parce que dans les 20 prochaines années, dans le monde, plus de 75% de la population va se retrouver dans les villes. Alors, tous les problèmes qui touchent les changements climatiques, l'environnement, l'urbanisme, la sécurité, développement économique, développement de l'emploi, lutte contre la précarité, les mesures d'équité vont passer par les villes. Donc, j'ai pu avoir en 2017 la part du gouvernement Couillard le statut de métropole. Donc, on s'est donné tous les outils en matière d'intégration, en matière d'habitation. Avant, on n'avait même pas le droit comme ville d'avoir des programmes de compensation et de subvention. Là, j'ai pu le retrouver. Donc, ce qu'on va faire de différent, c'est-à-dire, tu sais, on juge une maison à son solage. On a une fondation qui est solide. On va arrêter de déboulonner le passé. On va s'inspirer de ce qui est bien. Et fort de cette expérience-là, avec une expertise qui va être en mesure de s'adapter aussi aux nouvelles réalités, on va être en mesure de se réaliser pleinement. Donc, c'est une évolution incontournable de la métropolisation des cités à travers le monde. Hein? Une ville, la cité est venue au monde avant les pays. Donc, ce groupe d'individus, cette communauté, cette cité va permettre justement de se réaliser pleinement. Donc, j'ai cette expérience, j'ai une perspective pour avoir été député et ministre à Ottawa. J'ai joué un rôle sur la scène internationale, sur la scène locale. C'est lorsque j'ai fait ma maîtrise des affaires, il y avait un concept qui s'appelait Localization, Think Global, Act Local. Alors, c'est exactement ça la vie aujourd'hui, là. Donc, on va tous s'associer à travers le monde sur des enjeux globaux, mais on doit avoir une réalité locale et on est là avant tout pour répondre et livrer ces services de proximité. Donc, je pense que cette évolution, cet apaisement aussi, évidemment, quand c'est ta 12e campagne électorale, t'apprends tes erreurs, mais c'est le retour du vivre ensemble. Moi, j'ai jamais vu une ville aussi, il y a de plus en plus de radicalisation. On dirait qu'on n'a pas un Montréal pour tous les Montréalais. Il y a de plus en plus de divisions et on a besoin de se retrouver. Donc, cette résilience personnelle que j'ai vécue, je pense que Montréal a besoin de sa résilience. Et puis, le fait d'avoir un Montréal pour tous les Montréalais, l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance, d'être fédérateur, d'être rassembleur, puis de se dire on fait tous partie de la solution. Ben, je pense qu'on a besoin de ces hommes et de ces femmes qui ont déjà eu cette expérience-là pour se renouveler. Mais tu t'adjoins des gens qui ont vécu autrement, des gens qui ont des expertises ou qui veulent tout simplement donner d'eux-mêmes. Alors, je pense qu'à partir de là, on va retrouver Montréal.
Oui, on l'espère. On est rendu là. En 2021, ouais. Retrouver Montréal Montréal un petit peu plus sexy, un peu plus ouvert au monde, tu sais, comme se démarquer un petit peu. Là.
Un bon bagaille, là. Bon bagaille.
Un bon bagaille, on a besoin d'un bon bagaille, là. Mais tout, c'est bon que vous parlez encore, parce que tous les deux, on a grandi dans un coin de Montréal que, tu sais, ces temps-ci, on en parle comme si c'était très négatif, mais on a eu une belle vie tous les deux à Montréal-Nord.
Montréal-Nord, et à cause de que c'est une ville à l'époque qui était enclavée par le chemin de fer et puis la rivière des Prairies, c'est comme si c'était la banlieue dans l'île. C'était un extraordinaire, et c'est toujours un extraordinaire modèle de générosité, de solidarité et de diversité. Il y a des incidents, oui, il y a des précarités, il y a un coin de rue difficile, hein, Roland et puis Pascal, mais il ne faut pas définir Montréal-Nord de cette façon-là. Je veux dire, on avait anglophone, francophone, il y a eu la communauté, évidemment, italienne, haïtienne, c'est la diaspora, le cœur de la diaspora est à Montréal-Nord. Une gastronomie extraordinaire, là, depuis que j'ai découvert le lambi, tu sais que je suis un autre homme. Mais ce qui est magnifique, c'est que malheureusement, à cause des woke, c'est comme il y a des gens qui essaient de radicaliser la situation, d'étiqueter la situation. C'est la capitale du bel âge. Il y a 26 000 personnes âgées de 65 ans et plus, hein? Le Gouin, les résidences et tout ça. Il y a beaucoup de parcs verts. Il y en a pas assez dans certains secteurs. Il y a eu des développements un peu sauvages, mais regarde, il y a des magnifiques réalités qu'on a laissées de côté. Maintenant, il y a une communauté maghrébine qui s'est installée, une communauté africaine. Donc, le microcosme, c'est un peu les Nations Unies, hein. On a vécu ce vivre ensemble-là. Oui, il y a des enjeux de sécurité. Il y a un besoin au plan de la vigilance, au niveau policier. Oh, écoutez, à l'époque, on a inventé la police communautaire, la police jeunesse.
Ouais, je m'en rappelle.
On organisait des tournois avec les jeunes en difficulté, des tournois de basketball contre les policiers. Alors, c'est toujours un plaisir de battre les policiers au basketball. Oui,
exactement. Tu vois? Au basket.
Arrière des prairies, c'était du judo. Donc, tu sais, il y a des... À un moment donné, il faut arrêter de penser que c'est tout ou rien. Le croit ou meurt, là, moi, je crois pas à ça. Alors, on est capable de trouver des consensus puis de développer des traits d'union. Et Montréal-Nord sait faire. Donc, il y a des gens qui essayent de récupérer puis de jouer cette carte-là toujours extrême, là, du tout ou rien. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Et toi et moi, on en est la preuve vivante.
Exactement. Moi, j'ai grandi dans le coin de... Ben, en fait, quand votre bureau du député était sur la rue Charlevoix. Moi, je suis sur Hainaut.
Ouais.
Fait que ça, c'est Hainaut et Amos. Amos, c'est Charlevoix. Mais là, je vis plus là-bas, puis je donnerai plus mon adresse.
Ouais.
Ah, ça, c'est comme... Non, là, je suis une Boisbrionnaise. Mais une fille de Montréal-Nord, Mais vous, c'est quoi vos plus beaux souvenirs de Montréal quand vous étiez plus jeune? Parce que vous avez été à l'école secondaire en Bourassa, je pense. Moi, j'étais à Calixa.
Oui, on vous battait au...
Ouais, au basket.
Dans les sports, puis oui, c'est ça. Moi, j'ai joué au baseball, beaucoup. J'étais un maniaque de baseball. À la grosseur que j'avais, j'ai joué un peu au hockey, mais je ne pouvais pas me l'offrir. Mais j'étais un excellent gardien de but parce que je couvrais tous les ans. Mais j'ai surtout joué au baseball. J'étais évidemment très impliqué au niveau scolaire. J'ai fait Saint-Camille, j'ai fait qui est devenu le centre des loisirs. Oui, je suis arrivé à la cinquième année.
OK!
Je suis originaire de Joliette, alors j'ai resté, j'ai demeuré. Là, ça fait 3 ans que je suis dans le Vieux-Montréal, mais j'étais pendant 45 ans à Montréal-Nord. J'ai été à Arborassa Classique, qui est maintenant un centre d'achat, à côté du CLSC, là, où ce que.
Ah oui, c'est rendu.
Ah
ouais. Oh, ouais!
Ça, c'était une école avant. J'ai été à Henri Bourassa, secondaire, et j'ai fait le collège Marie-Victorin, que j'ai payé de ma poche. Alors, puis j'ai travaillé. J'ai des beaux souvenirs de travail. Depuis l'âge de 14 ans, je travaillais. J'étais allé aux Zellers, au centre de distribution, sur le coin de Léger, puis Albert Hudon. J'ai grandi, j'ai vécu, et je me suis pratiqué en politique ailleurs pour un de mes plus beaux moments, c'est d'avoir été élu député de Bourassa en 1997, et, j'ai été le premier ministre du côté fédéral à Montréal-Nord. Et puis, moi, j'ai travaillé à l'époque avec Carlo Rossi quand il était député. J'ai vécu des beaux moments. J'étais président de classe au secondaire. On avait des événements. J'étais un féru de cinéma. Donc, on avait Cinétique qui s'appelait là-bas à l'époque. À l'auditorium, on avait des films. Et puis, j'ai fait du théâtre. Puis, j'ai eu des beaux moments à Montréal-Nord. J'ai toujours des beaux moments. Mes parents sont toujours vivants. Ma maman, 83 ans. Mon père, 90. Wow. Toujours autonome. Je vais les voir. Je vais faire mon marché toujours à Montréal-Nord pour la plupart du temps. Mon nettoyeur. Je vais toujours je vais toujours voir les gens, là, évidemment. Alors, c'est un beau secteur.
Vous êtes un enfant de Montréal-Nord. Puis on a tendance, même si on habite ailleurs, on retourne toujours. Non, là. Puis ça dépend de notre amour pour cet arrondissement-là.
Mais des fois, on entretient les médias. Je veux dire, il y a des défis. Tu vois qu'il n'y a pas de précarité, il y a des problèmes d'habitation, il y a des problèmes de pauvreté. Mais moi, je n'avais pas cet aspect misérabiliste de penser que tout allait mal et que même à l'intérieur, j'étais parrain. Je suis parrain, on est moins là, mais des pochettes de l'espoir avec Bruni de Reyes, une famille d'ailleurs de réfugiés politiques chiliens que j'avais pris sous mon aile quand j'étais ministre de l'immigration à l'époque, et puis elle a fait des choses exceptionnelles. Regarde, oui, il y en a des défis, il n'y a rien de facile, mais il y a des solutions, et puis on a surtout une population extraordinaire qui fait partie de la solution. Alors moi, à chaque fois qu'on essaie de salir Montréal-Nord, on peut relever des défis sans tout dire que tout va mal. Et puis, j'ai toujours été là-dessus un pragmatique plutôt qu'un idéologue, et puis... l'affaire de définancer puis de désarmer la police, puis c'est toujours pareil, puis la police, c'est l'ennemi. Non, regarde. Oui, il y a eu des situations, il y a eu des moments difficiles, mais on a eu, au fil des ans, des hommes et des femmes qui, au meilleur de leur connaissance, ont joué un rôle dans l'émancipation de Montréal-Nord, tant sur le plan communautaire. Regarde, moi, j'étais dans le Club Richelieu, Club Optimiste. On a fait des belles choses à l'époque. Il y a un don de soi, puis un altruisme à Montréal, qui est proverbial, et puis une magnifique intégration. La communauté haïtienne joue un rôle à l'intérieur, tant sur le plan économique, social que communautaire, religieux aussi, parce qu'il y a il y a différentes églises qui
contribuent. Madame Pamphile?
Ben, pas cher, pas grand choix. Non, Madame Pamphile.
Il faut nous nommer Madame Pamphile.
Moi, je suis comme poisson crasé dans bouillon avec elle. elle prie pour nous. Elle prie pour nous. Et puis, c'est toutes des choses comme ça, et on était très tricotés serrés politiquement. Le municipal, le provincial et le fédéral travaillaient main dans la main. Mais mon fidèle adjoint bras droit, Joe Barbieri, qui organisait Montréal-Nord en fête pendant 25 ans au Parc Émilie-au-Nord, où on avait de la musique, il y avait une messe, une procession. T'sais, chacun pouvait vivre leur propre culture tout en partageant la leur aux autres. Alors, c'est ça la beauté du vivre ensemble. C'est ça Montréal et Montréal-Nord. Et puis aujourd'hui, on a Christine Black, on a Chantal Rossi qui représente ses Christine, c'est une nouvelle arrivée, MRS depuis un certain temps, mais Chantal Rossi, une famille, la fille de Carlo, qui avait été députée à Ottawa, il y a Jean-Marc Fournier, et puis on a le premier élu de confession musulmane, Abdel Sari, qui est mon porte-parole en matière de sécurité publique. Donc, on a une belle équipe, et là, on a un jeune qui va se présenter avec nous, Philippe Thermidor, vient de finir son bac, 26 ans, haïtien. Alors, tu vois, on travaille pour cette... On n'a pas étudié la diversité, nous sommes la diversité, on a vécu la diversité, on part se poser de questions. C'est naturel pour nous. Alors, on a une belle équipe à tout niveau et partout dans les arrondissements. Alors, cet apprentissage que j'ai eu de Montréal-Nord, ben, j'essaie de le transmettre aussi à travers mes fonctions.
Ben oui, c'est vraiment c'est remarquable. Puis, on se croise les doigts. Ouh, je viens de le dévoiler. C'est comme, oups, spoiler. Mais aussi, parlant de la Formule E, ça, je vais ouvrir la porte parce que moi, je suis une femme. Et quand ça a eu lieu à Montréal, j'ai couvert l'événement en tant que média. Et moi, ma vision à moi, j'ai fait « Wow, il y a quelque chose à faire ». Puis par la suite, j'étais à Lisbonne, au Web Summit. On en parlait. T'sais, à l'extérieur du monde, c'est quelque chose de beau. Puis je pense que la ville de Vancouver, je ne suis pas sûre que peut-être ils se proposent de le faire. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais ça que ça revienne à Montréal. Est-ce que peut-être ça pourrait revenir à Montréal, mais dans d'autres arrondissements comme Montréal-Nord?
Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que bon, on avait eu des problèmes sur le plan de communication et tout ça. L'événement comme tel avait été magnifique parce que de toute façon, c'est un laboratoire d'innovation qui répond à la transition énergétique. Et puis Montréal est la capitale de l'or bleu avec Hydro-Québec. Donc, c'était de soi. Maintenant, il y a eu des problèmes de communication. J'ai fait des erreurs par rapport à ce qu'on donne le nombre de billets et tout ça. Et puis, j'ai comme l'impression qu'il y a eu comme quelque chose de parallèle plutôt que de regarder l'importance de l'événement. Et qu'on sait que de toute façon, ça pouvait pas. Il n'y a pas un événement qui est réussi sous plan financier dans la première année. Maintenant que je suis heureux que TVA Sport reprend la diffusion de ça. Et puis, on voit que, regarde, même l'ensemble des villes et puis le Canada a dit cette semaine qu'il n'y aura pas de voiture à essence après 2035. Donc, je veux dire, il y avait un naturel, c'est une course urbaine. Ça a été probablement mal ficelé, mal vendu. Puis à un moment donné, ben il y a eu des problèmes de communication qui vont avec. Mais la formule électrique est une bonne idée. Je veux dire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais malheureusement, là, j'aimerais ça que ça revienne un jour. Tout le monde aimerait ça. À l'époque, on ne pouvait pas le faire au parc Jean Drapeau parce que il aurait fallu reconfigurer le circuit. Tu sais qu'à l'époque, on ne changeait pas de pneus, on changeait de voiture à cause de la durée des batteries. Maintenant, on peut faire une course complète, mais regarde, il y a eu tellement d'imbroglio que je pense que l'événement est toxique en soi. Mais l'idée, la question de transition énergétique, l'électrification des transports, ça fait partie des solutions pour sauver la planète et dans une réponse au changement climatique. Mais là, je pense que si Vancouver va là, ça va être difficile de notre côté. J'ai bien aimé cet événement-là. J'ai parlé aux pilotes. J'ai travaillé avec la FIA aussi dans plusieurs dossiers. Et Montréal avait eu le plus beau circuit. Tout le monde disait que c'était magnifique. Et puis, bon, alors, des fois...
Lucas Desgracieux m'a dit ça aussi, là, que c'était le plus beau défi. Mais des fois, on peut continuer à rêver. On ne sait jamais, mais...
D'amener nos dirigeants. Je sais pas pour l'instant... Ma priorité, c'est de sortir de la crise de la pandémie, là, mais on verra à contribuer de toute façon à ce transfert énergétique et à la question de l'électrification des transports.
Mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui pense quand même à l'environnement, puis dans tous les aspects. Là, ça touche pas juste le transport, mais ça touche aussi
loisir. C'est l'événementiel, c'est le changement de mentalité face au changement de paradigme au niveau de la mobilité, au niveau du transfert. On parle de ne plus utiliser l'essence, mais il y a aussi la récupération, il y a le bio, il y a la bioénergie. Alors, mais on a une électricité extraordinaire ici qui est renouvelable et propre. Alors, c'est sûr qu'il faut y penser. Là, vous avez des entreprises maintenant, on parle d'autobus électriques, de camions électriques, de motos électriques, évidemment, la voiture électrique a de plus en plus de modèles assez intéressants, merci. Alors, Non, moi, je pense que l'avenir va passer par l'électrification des transports. L'événementiel, puis moi, je pense que dans les 10 prochaines années, on va probablement avoir une fusion entre la Formule 1 et la Formule E. Donc, on verra. Mais
on verra.
C'est sûr que l'événementiel est aussi une carte d'affaires pour Montréal. Montréal est une des 8 villes onusiennes, est une ville internationale. Je vous ai parlé du vivre ensemble, puis on est un point de mire, on est un carrefour, on est la ville en Amérique du Nord, la deuxième ville en importance en termes d'organisation internationale. Et puis avec l'ensemble des diasporas, il y a bien des choses qu'on peut faire.
Voilà. Oui, oui. Oh, wow! Maintenant, je vais terminer avec des petites questions comme un peu pop culture, juste pour voir votre culture pop culture, puis aussi vous piéger sur la gastronomie haïtienne.
Premier choix.
Oh, ouais, là, c'est vite, vite. OK. Griot ou Lambie?
Lambie.
Oh! OK, on est des frères puis des sœurs. OK. Expo ou les Canadiens de Montréal? Ben, ça, c'est les deux, là.
Bon, moi, je suis les deux parce que, écoute, c'est une garde partagée. C'est des
trucs divers.
Non, mais je pense à Youpi, là.
c'est Youpi, il faut sauver Youpi. Faut sauver Youpi. OK. Prochaine question. YouTube ou Arcade Fire?
J'adore YouTube, mais je suis local. Mais je suis plus YouTube qu'Arcade Fire.
OK. Fair. Les Beatles ou les Rolling Stones?
Beatles.
Ah, ouais! OK, c'est quoi votre album préféré?
You can always get what you want. Non, mais moi j'ai acheté, tu sais, le disque bleu et le disque rouge, là, de Beatles.
Ah, oui.
Mais de 60 à 65, puis non. Moi, c'est comment je suis. Je pense que j'ai inventé la musique continue avant que ça existe. Là. Je faisais toujours la même affaire. Là.
Jusqu'à temps que
ouais.
Tu t'en rappelles tellement
des paroles. Ouais, j'ai appris l'anglais comme ça, oui.
Oh, yes, Seigneur! C'est bien ça! dernière question comme ça. OK, Lambie, Griot, vous avez dit Lambie, du riz jonjon ou du riz à pas?
Du riz jonjon.
Oh, oui! Tu sais, quand ils mettent des crevettes en plus, là. Mm-hmm. Ça, c'est bon.
Non, mais avec l'envie d'un tel mollusque.
Ça va ensemble, là. C'est cohérent, là. Puis,
Mais il y a le rhum barbancourt aussi, là. T'as pas le choix.
Non, mais celui de 14 ans. Le 14 ou le 15 ans? Je m'en rappelle plus. C'est quoi le nom?
Le
15 ans, là. Ah. Oh là 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 là. Il faudrait que je passe une petite commande à mon père. Hein.
Bon, ben, il est mieux de nous aider, lui, là. Là.
Okay. Ah oui, oh,
il y a
oui,
des
oui.
contacts à part au prince, là.
Oui, c'est ça. Ah, mais M. Conner, merci beaucoup pour cette belle entrevue.
C'est gentil.